Le cyclone Chido a frappé Mayotte. L'archipel est dévasté. Les secours s'organisent alors que le bilan humain risque de s'alourdir ces prochaines heures. Une visite diplomatique en Calédonie. La ministre des Affaires étrangères du Vietnam ainsi que l'ambassadeur vietnamien à Paris étaient à la rencontre de la communauté descendante des Chandang sur le territoire. La fin du salon des antiquités qui a rassemblé les amoureux des objets du passé. C'était durant 2 jours à l'hôtel de ville de Nouméa. L'actualité religieuse, le pape François arrive ce soir en Corse. Le souverain pontife atterrira à 19h pour nous à l'aéroport d'Ajaccio. Au chapitre politique, François Bayrou doit former son gouvernement. Le nouveau Premier ministre poursuit ses rencontres avant d'annoncer les noms des membres de son exécutif. Le sport, encore une chance de médaille pour Maxime Grousset au championnat du monde de natation. Après l'argent sur 100 mètres papillon, il sera en finale du 50 mètres nage libre. Et en Calédonie, terrain de basket éphémère avec vue sur mer. Pendant 3 jours, la Ligue organisait des matchs de 3 contre 3 sur le quai ferry pour clore la saison 2024. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une situation catastrophique évoquée à Mayotte. Le bilan humain après le passage du cyclone Chido ne fait pour le moment état que de 2 victimes, mais il risque de s'alourdir dans les prochaines heures. Des chiffres de plus d'une dizaine de morts sont déjà évoqués. Les retours de terrain sont encore flous étant donné la configuration de l'archipel et de nombreux bidonvilles occupés par des immigrés sur place. Des vents à plus de 200 km/h ont touché Mayotte. Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville.
Après cette catastrophe que vient de connaître Mayotte, je crains le pire sur certaines parties de Grande Terre. Nous nous sommes préparés dans la gestion de crise, mais tout reste à faire. Nous allons devoir porter secours à nos plus proches, faire en sorte de maintenir l'ordre public, faire en sorte que depuis la métropole et d'ailleurs se posent des avions et arrivent des bateaux sur le port pour pouvoir apporter tout ce dont Mayotte va avoir besoin, de la nourriture, de l'eau, des hommes et des femmes qui vont venir nous aider, des médecins. Je mets tout en œuvre à partir de maintenant pour atteindre ces objectifs et vous apporter des réponses que j'espère les plus rapides possibles.
Des infrastructures ont été touchées telles que l'aéroport ou l'hôpital principal de Mayotte. François Bayrou, le nouveau Premier ministre, participait ce matin à une réunion de crise en présence de Bruno Retailleau, Sébastien Lecornu ou encore François-Noël Buffet. Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui a déjà détaillé de nombreuses mesures pour venir en aide au plus vite au 101e département français. Il a fait un point complet sur la situation.
C'est une situation vraiment exceptionnelle. Depuis 1934, il n'y avait pas eu à Mayotte un tel événement climatique qui, comme le Premier ministre l'a indiqué, a conjugué à la fois du vent, plus de 226 km/h pour les rafales, ensuite de la pluie, et vous savez qu'on a un habitat précaire qui est accroché à flanc de colline, et avec le ruissellement, avec la déstabilisation du terrain, c'est bien entendu une catastrophe, et l'entièreté de cet habitat précaire a été évidemment détruit. Et puis le troisième élément, c'était une forte houle qui a pu créer parfois des phénomènes de submersion marine. Donc un épisode climatique qui est absolument dramatique. Tout l'État, tous les services, les ministères sont absolument mobilisés. Aucun bilan pour l'instant. Ce sont des bilans très très provisoires, de quelques morts, vous l'avez annoncé. Hors de question aujourd'hui de prononcer des chiffres dans la mesure où pour faire un bilan, on doit être en mesure d'aller sur le terrain, d'inspecter les gravats, d'inspecter cet habitat précaire qui a été totalement détruit. Ça sera que dans quelques jours, dans quelques heures, mais ce bilan, il faudra sûrement des jours pour pouvoir l'affiner. Nous craignons qu'il soit lourd, mais pour l'instant, je ne prononcerai aucun chiffre.
Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a déjà annoncé qu'il se rendrait à Mayotte en début de semaine prochaine. L'actualité en Calédonie est tout d'abord cet accident de la circulation qui a provoqué des perturbations pour le trafic sur la Save Express cet après-midi. Un véhicule a fait une sortie de route entre les échangeurs d'Apogoti et des Érudits dans le sens nord-sud. Une personne a été légèrement blessée au visage. Elle a été évacuée au Médipôle. L'intervention des secouristes a nécessité la mise en place d'une circulation sur une voie jusqu'aux environs de 16h30.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
La deuxième édition du Salon des Antiquités, des objets de collection et du vintage a refermé ses portes ce soir dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Le bilan est positif selon le président de l'Association calédonienne des amateurs d'objets de collection, Jacques Esposito. On l'écoute. Jacques Esposito, que nous allons entendre dans un instant.
Concernant cette deuxième édition, on est sur un salon où il y a plus beaux objets que l'an passé. Donc les visiteurs étaient ravis de voir de beaux objets. En termes de fréquentation, on a une belle fréquentation samedi. Par contre, aujourd'hui, c'était assez calme. Et beaucoup de gens qui viennent se faire plaisir en regardant, mais apparemment mes collègues exposants trouvaient qu'il y avait beaucoup moins de ventes aujourd'hui. Certains ont fait de beaux achats, ils ont profité en plus de prix intéressants sur des objets décoratifs, et certains me disent qu'effectivement c'est pour des idées cadeaux.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. 25 exposants étaient présents à cette occasion durant 2 jours à l'hôtel de ville de Nouméa. Une délégation officielle du Vietnam était en visite en Calédonie. Elle était composée de la vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, de l'ambassadeur du Vietnam en France et du consul général du Vietnam à Sydney. Ils ont pu rencontrer les différentes institutions et évoquer de possibles coopérations, notamment des échanges commerciaux. Le président de l'amicale vietnamienne de Nouvelle-Calédonie, Patrick Guillon.
Ce voyage, déjà, c'est un très grand honneur pour nous. Déjà, nous avons la vice-ministre, bien sûr, qui est avec nous, mais aussi l'ambassadeur du Vietnam en France, qui n'est jamais venu en Nouvelle-Calédonie, et le consul général du Vietnam à Sydney, qui est notre lien le plus proche pour tout ce qui est administratif avec le Vietnam. Comme je disais, c'est un honneur pour nous et c'est une grande joie que nous avons tenu à montrer à la communauté vietnamienne en Nouvelle-Calédonie, bien qu'elle soit loin du pays, bien qu'elle soit aussi loin de leur famille. On garde toujours le Vietnam dans notre cœur et ici, dans une terre du Pacifique, nous avons fait perdurer nos traditions et notre culture et nos valeurs. Comme a été dit dans les discours, c'est la fraternité. L'amicale vietnamienne a souhaité rappeler qu'il y a toujours ce pont entre la communauté vietnamienne de Nouvelle-Calédonie et les Vietnamiens qui sont amis de la Nouvelle-Calédonie.
Et hier soir, la délégation a notamment pu rencontrer la communauté calédonienne originaire du Vietnam et notamment les descendants des Chandong au foyer de Tina.
RRB 17h53.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Première semaine des grandes vacances scolaires, sauf pour les élèves de terminale qui n'ont pas eu leur baccalauréat du premier coup et qui passeront les épreuves du deuxième groupe dites de rattrapage. Une semaine, Lionel Sabot, marquée par 2 inaugurations.
Oui, demain c'est le nouvel hôtel de la police municipale de Nouméa situé rue Frédéric-Surlot qui sera inauguré. Et mercredi, ce sera le nouveau centre d'incendie et de secours du SCVM Sud situé à Bouloupari. C'est aussi demain la prise de fonction de la nouvelle directrice de cabinet du haut-commissaire, Anaïs Haït-Mansour. Elle remplace ce poste Théophile de la SUS. On retiendra encore au chapitre institutionnel la réunion de l'Assemblée de la Province Nord à Conné. Ce sera mercredi. Ce sera la dernière de l'année, tout comme le dernier conseil municipal de Nouméa qui est programmé vendredi prochain. Et puis dimanche prochain, le 22 décembre, sera le 4e et dernier dimanche de l'Avent.
Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Demain matin, c'est le général Nicolas Matteos qui sera notre invité. Le commandant de la gendarmerie viendra faire le bilan de la sécurité 7 mois après le début des émeutes. Ce sera à suivre donc sur notre antenne demain matin à 7h30. Et puis à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la Province Sud, qui était vendredi midi l'invitée d'Elisabeth Noir. Une émission qui est également disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. En bref, au lendemain du conseil municipal du Mont d'Or, où les élus Génération NC ont vu l'adoption à l'unanimité de leur vœu de mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés pendant les vacances scolaires entre 22h et 6h, le parti de Nicolas Metzdorf a publié un communiqué pour que cette mesure soit étendue aux autres communes de l'agglomération. Les élus de Génération NC de Nouméa, de Dimbéa et de Païta prévoient d'adresser une demande similaire à leurs maires respectifs. Le parti a également sollicité le haut-commissaire pour qu'il accède à cette demande.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Les animations de Noël à présent. À Païta et à Dimbéa, les marchés de Noël se déroulaient hier, tandis qu'à Nouméa, c'était également ce samedi le lancement du marché des artisans installé pour l'occasion sur la place des Cocotiers. Il va rester en place tous les jours jusqu'au 23 décembre. Un événement en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat pour aider les professionnels. On écoute sa présidente Elisabeth Rivière.
Chers Calédoniens, venez soutenir l'artisanat local. Venez faire des cadeaux qui soient différents de ce que vous pouvez faire les autres années, acheter des produits locaux et il y en a de très beaux. Donc venez nous rendre visite, vous avez le temps jusqu'au 23 décembre. Mais ne tardez pas trop parce que les artisans ne sont pas tous les mêmes chaque jour. Certains tournent, d'autres viennent 2-3 jours et ne reviendront plus. Donc si vous voyez un cadeau, n'hésitez pas tout de suite à l'acheter parce que vous n'êtes pas sûr de le retrouver. Et comme c'est de l'artisanat, eh bien chaque produit qui est réalisé est unique. Donc vous ne trouverez pas certainement le même produit deux fois.
Des propos recueillis par Kéline Dabouakou. Notez que des spectacles gratuits sont aussi proposés au kiosque à musique tous les soirs à partir de 18h. Et puis, toujours au chapitre des animations de Noël, ce soir, à Nouméa encore, un chant de Noël est proposé par la chorale Les Alizés à partir de 18h en l'église du Vœu.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et Noël, c'est aussi sur RRB avec notre opération Au cœur de Noël, lancée depuis 2 semaines. Maintenant, tous les dons que vous nous apporterez seront redistribués avec l'aide de la Croix-Rouge, du Secours catholique, de la Société Saint-Vincent de Paul et de la Table ronde française aux familles dans le besoin et notamment celles qui ont été touchées directement par la crise insurrectionnelle. Au cœur de Noël avec Radio Rythme Bleu pour que cette année encore, Noël soit une fête pour tous. 17h passées de 57 minutes. On va tourner une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde. Et la visite du pape François en Corse, à tout de suite.
Oh, oh, oh ! C'est Noël chez Mazda. Nous avons le plaisir de vous accueillir au showroom de Magenta.
À Noël, offrez à votre famille le cadeau parfait avec Mazda. Alliez qualité et prix attractif pour des moments inoubliables ensemble. Faites de cette fête un moment spécial où chaque trajet devient une aventure en famille. Toute l'équipe Mazda vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Jusqu'au vendredi 10 janvier, gagnez un Samsung S24 d'une valeur de 99 000 francs offert par Connect Multimédia. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 40-20. Depuis plus de 10 ans à vos côtés, Connect Multimédia, c'est 2 points de vente pour plus de confort et une équipe dynamique à votre écoute. Téléviseur, hi-fi, téléphonie, objets connectés, smartphone, informatique, tablette, instruments de musique. Connect Multimédia vous accueille à Ducos du lundi au samedi et au quartier Alma du lundi au dimanche. Alors, pour gagner ce magnifique S24, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort, vendredi 10 janvier à 14h. 371 francs par SMS.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Michael Juneski.
Le pape François en déplacement en Corse. Le souverain pontife arrive dans quelques heures à Ajaccio. Il doit atterrir à 9h, heure locale. Il sera 19h pour nous. Plus de 100 000 personnes seront sur place pour accueillir le Saint-Père. Et ils seront plus de 8 000 à pouvoir assister à la grand-messe prévue au Grand Théâtre de Cazone. Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
Entouré de plus de 140 ecclésiastiques, le pape prononcera l'homélie avec un code couleur particulier. Pour cette cérémonie, le rose imposé par la liturgie, comme l'explique le cardinal et évêque d'Ajaccio, François Bustillo.
C'est la couleur habituelle pour la mi-carême et la mi-avant. Donc il n'y a que 2 fois dans l'année où on porte cette couleur, donc c'est rarissime. Donc on a dû s'adapter, commander très vite, parce que le timing était assez réduit, mais on a réussi.
Au centre de la scène, un autel blanc en forme de bateau et en contrebas sur le côté, plus de 220 choristes chanteront pour le pape et les milliers de fidèles. Jean-Luc Blénaud, chef du chœur de Sartène.
Un honneur incommensurable, mais alors un bonheur encore plus grand. Chez nous, le christianisme est vivant et il y a beaucoup de traditions orales dans la chanson. Je suis sûr que dans quelques générations, ils se souviendront très bien, même sans l'avoir vécu, qu'il y a nos anciens qui ont participé à ça.
Et ce matin, des dizaines de milliers de pèlerins et des curieux se pressent sur le chemin que va emprunter le pape. Il y a aussi une foule compacte sur les lieux où le Saint-Père marquera un stop, des lieux où il a fallu s'inscrire.
C'est un moment de liesse, on essaiera de voir le pape, c'est pas sûr.
Et bonne nouvelle, il va faire très beau aujourd'hui à Ajaccio.
Frédéric Michel pour Europe 1. C'est la première fois qu'un souverain pontife se rendra en Corse. Le pape François sera accueilli par Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur et des Cultes. Il aura également demain matin pour nous un entretien avec le président français Emmanuel Macron à l'aéroport d'Ajaccio avant de repartir pour Rome.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Au chapitre politique, le nouveau Premier ministre François Bayrou doit poursuivre ses entretiens afin de former le futur gouvernement. Il a échangé notamment avec le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, ou encore le gouverneur de la Banque de France. L'objectif de ces rencontres, c'est de prendre connaissance dans le détail de la situation politique et financière de la France avant d'agir. La semaine prochaine, il recevra les chefs des différents groupes parlementaires à Matignon, dont Marine Le Pen dès demain pour le Rassemblement National. Par ailleurs, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, a demandé à François Bayrou, je cite, une feuille de route qui permette de débloquer la situation. Et il plaide pour que Bruno Retailleau soit reconduit au ministère de l'Intérieur dans un entretien accordé à la Tribune dimanche. Je cite Gérard Larcher, le Premier ministre devra mettre chacun face à ses responsabilités, estimant que la crise actuelle impose le dépassement à condition que cela se fasse dans la clarté et sans reniement. Fin de citation. Notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB dès demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. Miss Martinique est devenue Miss France 2025. Le concours se déroulait ce dimanche en métropole. Angélique Angarny-Philopon a donc été désignée ambassadrice de beauté nationale. Elle est âgée de 34 ans, car pour la première fois dans le concours, aucune limite d'âge n'avait été fixée, alors qu'il ne fallait pas dépasser 24 ans par le passé. On écoute son émotion lors de son sacre en direct sur TF1.
Miss Martinique, vous êtes Miss France. Ce sont des larmes de joie, je suppose, non?
Absolument. Merci Jean-Pierre, c'est un honneur de me tenir devant vous. Quand j'ai gagné Miss Martinique, j'ai dit aux Martiniquais qu'on allait le faire ensemble. Et on l'a fait ensemble. Merci.
Un gala animé encore une fois par Jean-Pierre Foucault sur TF1. Miss Martinique, hôtesse de l'air de profession, rentre donc dans l'histoire du concours comme la lauréate la plus âgée. Notez que Miss Guadeloupe a terminé 3e dauphine, Miss Corse 2e dauphine. On rappelle évidemment qu'il n'y avait pas de représentante de la Calédonie cette année puisque le concours territorial n'a pas pu être organisé en raison de la crise insurrectionnelle. Il est 18h passé de 2 minutes. Une dernière page de publicité dans ce journal avant de voir toute l'actu sport.
Mardi 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Rouf. Info au 25 07 00 et réservation sur place. Retrouvez le menu spécial Noël sur la page Facebook Le Rouf.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Gileski.
Et à la une du sport, de la natation et Maxime Grousset qui a décroché ce matin pour nous une nouvelle médaille dans un grand championnat international, Lionel Sabot.
Oui, le Calédonien est devenu tôt ce matin pour nous vice-champion du monde du 100 mètres papillon en petit bain avec un chrono de 48-57. Il a même amélioré très nettement son propre record de France. Maxime Grousset n'a été devancé que par le Suisse Noé Ponti qui lui a battu le record du monde de la distance en 47 secondes 71. Rappelons que la précédente marque mondiale appartenait à l'Américain Caleb Dressel en 47-78. Avec cette médaille d'argent, Maxime Grousset apporte à la France sa 4e médaille dans la compétition. Écoutez Maxime Grousset.
Trop bien, franchement je suis super content après tout ce qui s'est passé et d'être deuxième derrière le record du monde. C'est pas rien. Donc il me reste encore beaucoup de chemin à parcourir, surtout sous l'eau. Et on verra ce qui sera pour la suite.
Et grâce à cette très belle deuxième place, le nageur calédonien de 25 ans poursuit une belle série en pochant une médaille lors des 7 derniers grands championnats internationaux. Ce n'est pas rien.
On passe au football, suite et fin, cette nuit et demain matin pour nous, de la 15e journée du championnat de France de Ligue 1.
Et ça commencera à 1h du matin cette nuit avec Montpellier qui recevra Nice. À partir de 3h, le Nantes d'Antoine Comboiré sera en déplacement à Brest. Rennes recevra Angers. Le Havre accueillera Strasbourg. Et puis cette journée se terminera demain matin 6h45 par le choc au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Rappelons que ce matin, matin. L'Olympique de Marseille a été tenu en échec sur sa pelouse par Lille, un but partout. Match nul également entre Auxerre et Lens, 2-2. Et entre Reims et Monaco, 0-0. Cette journée avait débuté avec une nouvelle défaite de l'AS Saint-Etienne, 2-1 sur la pelouse de Toulouse. Les Stéphanois qui n'ont plus d'entraîneur puisqu'Olivier Dalloglio a été remercié à l'issue de ce match. C'est Laurent Huyard, le patron du centre de formation, qui va assurer l'intérim.
Allez, du rugby à présent. Et trois clubs français qui seront sur les pelouses européennes pour la fin de la deuxième journée de la Coupe des Champions.
Et dans la poule A, nous suivrons le déplacement du stade toulousain sur la pelouse des Anglais d'Exeter. En cas de succès bonifié, les Toulousains pourraient rejoindre l'Union Bordeaux-Bègles en tête de cette poule. Dans la poule C, le stade français recevra les Anglais des Saracens, triple vainqueur de la compétition. C'est en 2016, 2017 et 2019. Enfin, dans la poule D, Toulon recevra les Écossais de Glasgow. Rappelons que ce matin, La Rochelle, à domicile, s'est imposée 35-7 sur Bristol, que l'Union Bordeaux-Bègles, dont on parlait il y a un instant, s'est imposée 40-19 sur la pelouse de la province de l'Ulster, et que Clermont, malheureusement, s'est incliné 15-17 sur la pelouse de Leinster.
Un mot de handball avec la fin des championnats d'Europe des nations féminins. La nuit prochaine, l'équipe de France tentera de décrocher le bronze continental face à la Hongrie. Coup d'envoi de la petite finale à 1h15 du matin pour nous. La grande finale se jouera à partir de 4h. Elle verra une confrontation entre les Danoises et les Norvégiennes.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport en Calédonie, clap de fin sur la saison de basket avec un cadeau pour les pratiquants. Un terrain de 3 contre 3 qui était installé depuis vendredi sur le Quai Ferry à Nouméa. Des matchs se déroulaient en plein espace public avec vue sur mer. Et ce, pour la plus grande joie des pratiquants. Écoutez.
Je trouve que ça va, c'est une bonne idée, ça change un peu.
Ça nous permet de jouer, surtout quand on n'a pas eu de championnat.
Bah, ça change des endroits habituels, parce qu'on a l'habitude de jouer sur les mêmes terrains, vu qu'il n'y a pas beaucoup de salles et de terrains. Bah, ça change d'endroit, de spectateurs et de paysage.
En vrai, c'est intéressant parce qu'au moins, tu as du public déjà qui peut t'observer. C'est pas souvent qu'on a des terrains, surtout au Quai Ferry.
Je trouve que c'est une bonne initiative pour tous les jeunes et tous les licenciés pour pouvoir jouer un peu à l'extérieur.
Franchement, c'est cool. C'est sympa, on est face à la mer, au soleil, c'est cool.
Une centaine de joueuses et de joueurs participaient à cet événement. Stéphane Samiladin est en charge du basket 3 contre 3 à la Ligue de Nouvelle-Calédonie.
C'est un peu la spécialité du 3-3 où on a un peu notre terrain qu'on peut transporter un peu n'importe où. Bah dans le monde, ils le font un peu partout. On l'a déjà vu sur la place du Trocadéro en face de la Tour Eiffel. En Australie, ils le font dans des centres commerciaux. Et nous, on a dit, bon, bah, pourquoi pas essayer de le faire un jour au bord de mer, hein, parce que c'est vraiment magnifique, quoi. Donc le spot ici sur les Quai Ferry, bah, voilà, il était idéal. Leur terrain est rentré juste. Donc voilà, trois jours impeccables, quoi. Il y a eu du monde qui est passé, ils se demandaient ce qui se passait, ils entendaient la musique, ils s'arrêtaient 5 minutes. Et justement, voilà, c'est de mettre de la visibilité sur cette discipline qui est en train d'émerger partout dans le monde. Et voilà, nous, on a lancé le truc et il fallait qu'on fasse notre part aussi du travail pour le 3-3. Il faut trouver des endroits insolites, c'est ça.
Un événement qui était donc aussi la dernière date de l'année pour le basket en Nouvelle-Calédonie. Fin de saison également ce week-end pour le VA, avec ce samedi les championnats de Calédonie V6 mixte longue distance. Richard Drouet, le vice-président de la Ligue calédonienne.
Une belle fin de saison après les problèmes qu'on a eu toute l'année. Là, on a dû faire course sur course tous les 15 jours enchaîner des... Voilà, on a eu quand même 18 podiums en l'espace de 2 mois et demi, 18 titres en 2 mois et demi, et sur tous les supports qui ont été passés en revue. Donc là, de ce côté-là, on a réussi à faire, je dirais, un coup de force là-dessus. On espère que 2025 va être un peu plus calme pour préparer les mini-jeux, les Jeux du Pacifique, se mettre en ordre pour déjà faire les présélections, puis les sélections définitives. Donc la saison va reprendre l'année prochaine au mois de février. On espère retrouver tout ce beau monde, toute cette jeunesse sur l'eau. Voilà.
Et ces championnats de Calédonie V6 mixte longue distance auront vu les équipages du club des Îles sous le vent finir aux 2 premières places, alors que Toapin complète le podium. De la pêche au gros et le Simrad Big Game classique du CNC qui se déroulait hier, l'équipage de Dark Knight et son propriétaire Vincent se sont imposés avec la plus grosse prise du jour, un marlin de 95 kilos. Ce concours le mieux doté du territoire représentait également la dernière épreuve de l'année, alors que le calendrier a lui aussi été largement contraint en 2024 en ski qui concerne la pêche au gros. Les championnats de Nouvelle-Calédonie d'haltérophilie se déroulaient à l'Institut d'haltérophilie du Mont d'Or. On signalera ces titres décrochés par Demi Dabin et Sylvain Duclos chez les seniors. Et pour terminer, la fin en tennis de table des championnats par équipe en senior, victoire du Mont d'Or face à Magenta. Chez les moins de 12 ans aussi, le Mont d'Or s'est imposé sur Magenta. Et chez les moins de 15 ans, c'est l'équipe de Magenta qui l'a emporté face au Mont d'Or. Il est 18h passé de 10 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous et bien pour cette nuit sur Bellep, la pointe nord et le nord-est, des averses parfois fortes et orageuses seront attendues. Des nuages également accompagnés de petites averses persisteront également sur le sud-est et d'autres circuleront aux loyautés en fin de nuit. L'ouest sera encore concerné par des averses fortes voire orageuses en début de nuit. Ailleurs, le ciel se dégagera. Peu d'évolution pour le vent qui restera de secteur nord-est en général avec 5 à 10 nœuds, voire aux extrémités de la Grande Terre et localement sur l'ouest, 10 à 15 nœuds. Des rafales persisteront et resteront possibles en sortie de vallée sur la côte ouest et les températures minimales perdront 1 à 2 degrés ce soir avec 22 à 24 degrés. Elles oscilleront par contre de 24 à 26 degrés ailleurs. Demain matin sur l'ouest et le nord ainsi que sur l'île des Pins, le ciel restera nuageux ou voilé. Sur les autres régions, les nuages demeureront plus nombreux accompagnés d'averses faibles. Le vent de secteur nord-est oscillera entre 5 et 10 nœuds. Au point de la Grande Terre, il atteindra localement 10 nœuds. Sur l'ouest, le vent sera variable faible. Puis en fin de matinée, des brises de sud se lèveront entre 5 et 10 nœuds.
Merci Maxime, c'est la fin de ce journal.